Vous êtes prêts pour du fun, de l'actu, des surprises et de l'éclat? Cette émission est faite pour vous alors. La Geek Nation. C'est parti pour 3 heures de folie!
Ouais, il vient nous prendre pour des fous. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci de vous nous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale Halloween de la Geek Nation. Comme l'année dernière, on va parler gore, on va parler cinéma, on va parler jeux vidéo, on va parler de plein de choses et on va s'amuser. Mais ce soir, évidemment, je ne suis pas tout seul. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, une nouvelle voix.
Mais c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah, bah si, tu
vois. Ah, si, si, c'est toi. Ah, c'est moi. Mais qui es-tu?
Moi, c'est Arnaud.
Oula.
On se bagarre contre le micro.
Beaucoup d'effets, là. T'as fait beaucoup d'effets au micro.
Il s'entraîne pour son karaté.
C'est ça.
Du coup, moi, c'est Arnaud. Je vais faire la chronique jeux vidéo.
C'est ça.
Je vais essayer de mettre un peu d'ambiance.
Alors, tu découvriras tout à l'heure le jingle gaming.
Ok.
Il n'est pas à piquer des hannetons, comme on dit.
J'espère qu'il y a un rapport avec le gaming.
Ouais.
Bon, moi, c'est déjà ça.
Un peu même. Un peu trop même. Et évidemment, vous l'aurez reconnu, Raph est avec moi. Bonsoir, Raph.
Bien, bonsoir tout le monde.
Et joyeux Halloween à tous les deux.
Merci.
Joyeux Halloween.
Joyeux Halloween.
L'émission sera plus courte cette fois-ci pour qu'elle soit diffusée intégralement le 31 octobre, soirée d'Halloween. On ne fera que 2 heures d'émission. On n'aura pas de 100% actu ce mois-ci. Mais vous inquiétez pas, on a pas mal de surprises. Bon, alors, au programme, on a des chroniques.
Pour commencer.
Et des jeux.
Oh.
Et beaucoup de jeux. Vous allez voir.
Ça, c'est cool.
Vous allez vous amuser. Les jeux sont plutôt pas mal. Mais je ne vous dis que ça. Bon, qui veut commencer ? Lequel de vous deux va devenir la première victime de cette émission ?
C'est pour le jeu ou c'est pour la chronique ?
Ah, la chronique.
Bon, peu importe, moi.
Bon, eh ben, je lance un jingle au hasard et c'est celui qui se reconnaît qui y part.
Étalon du cul !
C'est l'heure de parler gaming dans la Geek Nation.
Let's go !
Let's rock !
Étalon du cul te dit bonjour.
Impeccable.
Je t'avais prévenu.
Ouais, là, impeccable. Bon, moi, j'ai pas de poney en diamant, mais bon.
Bon, eh bien, de quoi vas-tu nous parler, Arnaud ?
Alors, attendez, d'abord, je vais allumer mon PC.
Il fallait faire ça avant.
Non, mais j'ai pas beaucoup de batterie, alors.
Bon, bah, va falloir meubler maintenant.
C'est ça,
bah, il y en a derrière toi, par exemple, des babs, si tu veux.
Alors,
oui,
moi,
bonjour, j'adore faire des blagues.
Oh, mon Dieu.
Je veux pas faire de
Ils
la
ont tué Kenny.
Oh.
Espèce d'enfoiré.
Quelle soirée.
Il y avait Christophe Lemoine, désolé.
Ouais. J'ai pas faire de la promo, mais un Mac, ça s'allume très vite. Et ça part très vite, donc il n'y a vraiment aucun problème.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Voilà, je suis prêt. Alors,
de quoi vas-tu nous parler ?
Et à quel moment faut envoyer la musique ?
Bah déjà, commence par dire ce que tu vas faire.
Ok, d'accord. Alors moi, je vais vous parler de la Fondation SCP.
Oula !
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent.
Absolument pas.
Et ben, c'est
ah, c'est glauque tout ça.
Et ben, c'est parfait.
Et ben voilà.
Donc, on va commencer par la Fondation SCP. Alors je vais commencer par faire une petite présentation de la Fondation. Alors la Fondation SCP, c'est une organisation secrète séculaire avec des moyens apparemment infinis qui applique son emprise partout à travers le monde. Et son but, c'est de contenir et sécuriser des anomalies. Ils ont pour objectif de protéger le monde de la connaissance de ces anomalies. Donc personne ne doit être au courant que ces anomalies existent, un peu comme les Men in Black, sauf que c'est un peu plus et un peu moins extraterrestre. Chaque personne dans la Fondation occupe une place, a un rang, qui est plus ou moins important en fonction des informations dont il a connaissance. Et je vais détailler un petit peu comment fonctionne l'organigramme de la Fondation. Alors pour commencer, on a les classes A. Les classes A sont les membres vitaux de l'organisation. Eux, ils ne doivent jamais s'approcher d'une anomalie parce que leurs informations sont trop importantes et il ne faut surtout pas qu'ils soient plus là. Les classes B, c'est des membres essentiels au niveau local. Ils peuvent de manière exceptionnelle être en contact avec les anomalies, mais il vaut mieux éviter. On a les classes C. C'est des membres de travail au quotidien auprès des anomalies, pas particulièrement dangereuses. Il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres, et les classes C ont le droit d'approcher celles qui ne sont pas trop dangereuses. En cas d'accident, ils sont un peu sacrifiables. Et la classe D, c'est le personnel renouvelable. La plupart du temps, c'est des prisonniers accusés de crimes atroces, ou alors des condamnés à mort. Et ce sont eux qu'on envoie au contact des anomalies les plus dangereuses, histoire de savoir comment elles fonctionnent et quels sont leurs dangers potentiels. On a aussi les classes E. Les classes E, c'est des agents mis en contact avec les anomalies et mis en quarantaine le temps de retrouver leur classe d'origine.
Jusque-là, c'est des fonctionnaires du ministère de la Culture.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tout le personnel de la Fondation est dirigé par un conseil, et ce conseil, on l'appelle le conseil O5. Ce conseil O5, c'est des gens tellement haut classés qu'on n'a quasiment aucune information sur eux, et il faut diguer pour les avoir. On dit qu'il pourrait y avoir 13 membres dans le conseil, 13 sièges disponibles.
Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, mais
c'est
un peu à la gauche.
D'accord. Il y a 13 membres donc, du coup, dans le conseil, mais on ne sait pas combien de personnes ont occupé ces places, ces sièges, et pendant combien de temps. Certaines personnes, possiblement, sont là depuis des centaines d'années, et ils ont amélioré leur durée de vie grâce à les SCP. Je vais parler un peu plus en détail de ce que c'est les SCP et ce que sont les anomalies. SCP, ça veut dire Special Containment Procedure, donc procédure de confinement spécial. Et leur logo, c'est sécuriser, contenir et protéger. Chaque anomalie, c'est un SCP, et chaque SCP a un numéro et un nom. Je vais en parler un peu plus en détail après, bien sûr. Du fait de leur anonymat, les membres du conseil ont souvent des surnoms un peu chelous, du genre malchance, celui qui patiente, le pilote, on a le père du mensonge aussi, qui est plutôt stylé, le général fou, le cardinal, et il y en a des tas comme ça. Alors, au niveau des anomalies, toutes les anomalies sont consignées sous forme de rapport sur le site de la Fondation SCP. Le premier rapport original a été écrit par Wesley Williams en 2007, il me semble, et c'est le SCP-173. Je vais en parler un peu plus en détail après. À la suite de ça, il y a des milliers de gens à travers le monde entier qui ont écrit des rapports sur les SCP. Les rapports sont toujours faits de la même manière. Ils commencent par les procédures de confinement de l'anomalie et ensuite un détail de l'anomalie et possiblement, si on peut interagir avec l'anomalie, une sorte d'interrogatoire de l'anomalie. Donc ces anomalies ou SCP sont classées selon différentes catégories. On a les catégories sûres. C'est des anomalies qui sont assez bien comprises, qui peuvent être confinées de manière permanente sans aucun risque, sont dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action ultérieure. Du coup, c'est très simple de les garder. On a les Euclides, qui est la classe intermédiaire, qui désigne une anomalie susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures sont bien mises en place. On a les anomalies Keter, qui sont très compliqués à confiner, qui c'est très risqué de les garder et qui possèdent un danger vraiment exceptionnel. Et on a les anomalies Tomiel, qui sont des anomalies hautement secrètes, extrêmement rares et qui sont souvent utilisées par la Fondation pour confiner d'autres anomalies avec d'autres niveaux de caractéristiques. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, la Fondation SCP, c'est mignon, tout ça, ça fait peur ou pas.
Mais c'est quoi ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'y vais en venir en détail, mais surtout, quel rapport avec le jeu vidéo ? Alors, c'est super sympa de poser la question.
Pardon.
Il n'y a pas de souci.
Écris-moi les relances.
Non, c'était fait exprès. Et alors, la Fondation SCP, c'est tellement gros comme concept, c'est tellement énorme. Il y a des milliers de personnes qui ont participé à ça sur le site, tout le monde écrivant un rapport sur un SCP différent. Il y en a des nombres à peu près 12 000 en ce moment, et de partout dans le monde. Vraiment, les plus actifs, c'est surtout les Américains et les Japonais qui écrivent beaucoup sur ces rapports. Et du coup, ça c'est vraiment un terreau très fertile pour le jeu vidéo et surtout la scène indé. Il y a un jeu qui n'est pas vraiment indé, qui est plutôt un triple A, qui c'est Control, peut-être vous connaissez, qui est, c'est pas vraiment sur la SCP, mais c'est grandement inspiré. Les développeurs l'ont dit dans une interview, c'est la Fondation SCP qui nous a motivés à faire ce genre de truc. Et moi, je vais vous parler d'un jeu en particulier, mais avant ça, je pense que vous connaissez le jeu qui avait fait pas mal de Twitch à l'époque, où des mecs ils descendaient un escalier sans fond, comme ça, et ils se filmaient, et le but c'était de voir leur réaction avec tous les jumpscares qu'il y avait et tout. Ce jeu-là, c'était un jeu sur le SCP-087, donc un exemple de SCP, le SCP-087, c'est un escalier sans fond et qu'il n'y a pas de fin. Tu peux essayer de le parcourir, tu ne le termineras jamais, tu mourras forcément avant. Ça, c'est une anomalie. Donc les anomalies, ça peut être ce genre de choses. Le jeu, bon, c'était pas extraordinaire. Il y avait des jumpscares, puis au bout d'un moment, tu meurs. Bon, voilà, en termes de gameplay et de richesse de gameplay, c'est pas extraordinaire. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle SCP Containment Breach, donc brèche de confinement. C'est un jeu indé de type survival horror, à la première personne. Il est sorti en 2012 et il a été développé par un gars qui s'appelle Jonas Rikkonen. C'est un Suédois.
Ça se reconnaît.
Exactement.
Tu m'aurais dit qu'il est japonais, j'aurais un peu de mal.
J'aurais pu le tenter, mais effectivement. Ce jeu, il est sorti de manière un peu remasterisée avec pas mal d'ajouts que la communauté a fait en 2022 sur Steam. Et c'est un jeu gratos. Donc déjà, ça c'est cool. Il est très amateur quand tu vois les graphismes, c'est typiquement Half-Life, mais le premier. C'est ce concept-là.
On rappelle, Half-Life, c'est 99.
Voilà. C'est vraiment un vieux truc, quoi. Mais c'est pas le graphisme le plus important. En termes de gameplay, c'est à peu près comme Half-Life, sauf qu'il n'y a pas d'armes. On n'est pas sur un concept de flingue ou quoi que ce soit. Tout le sel du jeu va être d'interagir avec toutes les anomalies qu'on va y trouver et essayer de survivre à celle-ci. On y incarne D9341, donc un personnel de classe D. Si vous avez bien retenu, le classe D, c'est les condamnés à mort, qu'on utilise pour connaître les anomalies. Et au début du jeu, justement, on est face à une anomalie, la fameuse SCP-173, qui a été écrite dans le tout premier rapport. Et en interagissant avec cette anomalie, le jeu se lance et on essaie de comprendre quelles sont les mécaniques. Donc c'est un jeu d'horreur. Vraiment, c'est un jeu d'horreur. Et le concept de ce genre de jeu-là, pour pousser le côté horrifique, c'est essayer de faire en sorte que le joueur ne comprenne pas trop les mécaniques qui sont mises en place. Parce qu'une fois qu'on commence à comprendre comment un jeu fonctionne, il nous fait plus peur. Là, le concept de ce jeu, c'est vraiment d'utiliser tous les SCP possibles pour flouter toutes les mécaniques et jamais trop savoir ce qui se passe. Je vais le détailler parce que c'est vraiment bien foutu. Il faut rappeler que c'est fait par un seul gars, tu vois. Et je vais détailler ça. Mais avant, je vais détailler quelques SCP pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je vais commencer par le SCP original, SCP-173. Alors le SCP-173, c'est une statue immobile en béton avec un petit peu des morceaux de béton qui s'en vont. Donc on voit les barres de fer qui sont dans les coulures de béton. Elle est peinte. Enfin, peinte comme si quelqu'un avait fait un graffiti sur un mur, quoi. Et cette statue, elle a comme particularité que tant qu'on l'a dans le champ de vision, il ne se passe rien. Mais dès qu'on la quitte, une fraction de seconde, elle étrangle quelqu'un.
C'est un ange pleureur, en pire.
C'est exactement ce concept. C'est exactement le concept de l'ange pleureur. Donc le début du jeu nous met face à cette SCP-173 avec d'autres prisonniers à mort, justement. Et on voit qu'en l'espace d'un clignement d'yeux, elle tue les deux personnes. Et nous, on a quelques secondes pour s'enfuir, ou sinon, c'est notre tour. On peut mourir pour comprendre la mécanique qu'il faut s'enfuir, mais comme c'est le début du jeu, c'est pas très grave de mourir au tout début, ça relance tout de suite, il n'y a aucun problème. Je vais présenter d'autres SCP. Il y en a un, c'est le SCP-096. Le SCP-096, c'est l'homme timide. Alors, il est inoffensif, il n'est pas intelligent, il est conscient, mais pas intelligent. Il se balade innocemment, mais c'est une sorte d'humanoïde assez grand avec des membres très longilignes, tout nu, vraiment particulier. Sa particularité, c'est que si on regarde son visage directement ou indirectement, ça peut être une photo, un enregistrement, n'importe quoi, eh ben on est violemment décédé. Et le rapport qui parle de ce SCP indique pas ce qui reste de la victime, puisqu'on n'en retrouve jamais une trace. Donc, c'est particulier. On a un autre SCP, c'est le 372. C'est une sorte de mante religieuse gigantesque et quasiment invisible. Elle a la capacité de se placer dans les angles morts de la vision en anticipant le mouvement des yeux, en percevant les signaux électriques qui traversent les nerfs. Donc, on ne pourra jamais vraiment avoir un contact visuel sur cette créature, parce qu'elle se déplace tout le temps, donc elle n'est pas vraiment invisible. Mais vu qu'elle sait où est-ce qu'on regarde, elle se planque toujours. Et dans le jeu, ça se traduit par de temps en temps, on va tourner la tête et on va croire qu'on voit quelque chose, et puis ça s'évanouit instantanément. Elle est inoffensive, mais dans un jeu où tout repose sur qu'est-ce qui se passe autour de nous et on peut mourir tout le temps, ça rajoute quand même au sel. Et le pire, c'est qu'en fait, elle est enfermée dans une gigantesque pièce avec des vitres, et on peut la libérer en voulant rentrer dans cette pièce sans forcément savoir qu'elle est dedans, puisqu'on la voit pas. Et le jeu est assez bien foutu pour ça. Il y a SCP-205. SCP-205, c'est une paire de projecteurs qui, quand ils sont ensemble et allumés, projettent sur un mur l'ombre d'une femme qui suit un scénario sur une période d'environ 6 mois et qui se termine par sa mort provoquée par des silhouettes cornues avant que le cycle ne redémarre. Si quelqu'un se trouve dans la pièce où est projeté ce film, eh ben, les silhouettes cornues s'en prennent à cette personne, au lieu de la femme. On a aussi SCP-914. C'est une grande machine qui possède une entrée et une sortie et qui a pour fonction de transformer un objet en autre chose. Tout ça, c'est des SCP présents dans le jeu. Cette machine possède 5 réglages. Il y a le réglage course, qui désassemble l'objet donné. On a le réglage wolf, qui dégrade l'objet donné. On a le 1 pour 1, qui transforme un objet en quelque chose de proche. On a le fine, qui l'améliore un peu, et le very fine, qui l'améliore beaucoup. On n'est pas obligé de mettre des objets, on peut mettre autre chose dedans. On peut mettre des SCP, ou nous-mêmes, et voir quels les effets peuvent être sur nous-mêmes aussi. Le SCP-970, c'est un phénomène spatial qui peut survenir n'importe où et qui se réplique autant autour de ses manifestations précédentes. C'est-à-dire que c'est un couloir avec des pièces autour, et en traversant les pièces, on se retrouve dans ce couloir à l'infini. À chaque itération, il va y avoir un petit changement dans ce couloir. Et au début, ça peut être juste un gobelet qui est mal placé. Et au bout d'un moment, ça peut être du sang qui coule sur les murs ou ce genre de choses. On a aussi SCP-106, qui se fait appeler le vieil homme. Il peut apparaître n'importe où. Il trace les portes, il sort de nulle part. Et une fois qu'il t'attrape, il t'emmène dans des dimensions de poche dont il est difficile de s'extraire. Donc tout ça, ça sert à quoi ? Tout ça, ça participe à nous donner un côté, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On va trouver des documents, on va trouver pas mal d'enregistrements qui vont parler ou des SCP, ou alors de la vie à l'intérieur du complexe dans lequel on est et qu'on essaie de s'échapper. En trouvant les documents, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les SCP, et ça va nous débloquer un peu plus de connaissances sur tout ce qui se passe, histoire de contrôler un peu notre environnement, parce que sinon, on est juste une victime, quoi. Et c'est vachement bien foutu, parce qu'il y a environ une cinquantaine de SCP, je ne les ai pas tous détaillés, hein, c'est pas l'idée. Mais dans un jeu d'horreur où, par exemple, tu peux voir un nounours sur le sol, le frôler, et quelques minutes après, mourir, parce que tu as des oreilles qui t'ont poussé un peu partout dans le corps, et comme tu ne comprends pas trop ce qui se passe, il faut essayer de trouver le maximum de documents qui développent un peu plus les SCP. Donc c'est pour ça que je parlais de survival horror. Le jeu, on n'a pas d'armes, on est à la merci d'un peu tout, on peut mourir n'importe comment, on peut mourir des fois on ne sait pas pourquoi, enfin souvent on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et une fois qu'on chope des lunettes de vision nocturne par exemple, on peut voir qu'il y a des êtres un peu humanoïdes qui nous pourchassent et dès qu'ils nous attrapent on est mort. Donc il faut essayer de jouer avec tout ce concept. Le jeu est très souvent sombre, les SCP... sont assez effrayants ou grotesques pour la plupart. Du coup, ça caractérise encore plus l'idée de l'isolement, puisqu'on comprend pas trop, on voit pas grand-chose. Donc en termes de graphisme, comme on l'a évoqué, c'est pas terrible, terrible, mais le jeu a énormément de force, donc en comptant les SCP et comment ils sont installés. Il y a aussi des musiques d'ambiance extraordinaires. Il y a des bruitages tout le temps qu'on entend, des bruits métalliques au fond, des hurlements lointains, des bruits de respiration, ce genre de choses. Le personnage fragile aussi, qui est un concept qui rajoute au côté survival, parce que si on mourrait jamais, ce serait vraiment pas drôle. Le personnage est plutôt lent, il a aucune arme, comme je l'ai explicité tout à l'heure, donc du coup, ça rajoute encore au côté. Et il y a une mécanique super intéressante, parce que je vous ai dit, si le SCP sort de notre point de vue, on est mort. Si le SCP, on le regarde dans les yeux, on est mort. On a aussi une mécanique de clignement d'yeux qui va se faire toute seule. Environ toutes les 10 secondes, il y a une barre qui se vide et une fois qu'elle arrive au bout, les yeux se clignent naturellement. Alors on peut la forcer, cette mécanique, c'est-à-dire cligner des yeux exprès pour reset le timer, ou alors maintenir, maintenir les yeux fermés, histoire de pouvoir passer tranquillement. Cette mécanique, elle rajoute au suspense, parce que le SCP-173, la statue, c'est un stalker. Mais tout le long du jeu, elle va être à notre trousse, et elle va apparaître de n'importe où. Et du coup, quand on va rentrer dans un couloir et qu'on va la voir, le premier réflexe va être de voir la jauge de clignement d'yeux, à savoir où est-ce qu'on est positionné par rapport à ça, et agir en conséquence. On ne va pas traverser le couloir si on cligne des yeux dans 2 secondes. Et cette mécanique est vraiment, vraiment très belle. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, parce que sinon je vais en parler pendant 30 minutes. Je vérifie si je n'ai pas loupé ce genre de truc. Non,
fais le tour, vas-y. Non,
j'ai fait le tour, je pense. Du coup, je conseille ce jeu à tous ceux qui veulent l'essayer, parce qu'il est gratuit déjà. Il se finit assez vite. Il y a différents niveaux de difficulté qui consistent à des possibilités de sauvegarde différentes, parce que faire tout le jeu sans sauvegarde, c'est beaucoup plus dur qu'avec des sauvegardes. Mais même la sauvegarde est quand même punitive, parce que si on a sauvegardé après avoir été en contact avec un SCP et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, ben on est foutu, il va recommencer le jeu. Donc du coup, je le conseille. Je conseille aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la SCP, la vidéo de Alt-136 sur le sujet, qui est une très bonne vidéo pour tout le côté fondation et présentation de SCP. Et je conseille aussi la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Esquive la boule de feu. Et c'est sur sa chaîne à lui que j'ai trouvé justement ce jeu Containment Breach. Et il analyse en détail tout le jeu. Bon, ça dure plus d'une heure, donc c'est quand même vachement agréable. Les vidéos sont super bien foutues. Je le conseille. Je pense que c'est un bon jeu pour Halloween.
Ben merci Arnaud.
Il n'y a pas de quoi.
Pas mal pour cette première.
Merci.
Joli, bravo.
Ça t'a donné envie de connaître la fondation ?
Bah écoute, pourquoi pas, hein. Tu sais, moi je suis pas spécialement un grand gamer, voire même pas du tout, mais ça peut toujours être intéressant de s'y pencher. Des fois ça m'arrive de toucher un peu aux jeux vidéo, des trucs comme ça.
Ça va plus loin que ça, parce que c'est assez proche de ce qu'on a appelé les backrooms.
Les backrooms, c'est un SCP à la base.
Voilà. C'est-à-dire que c'est un univers développé par les internautes.
Ouais.
Et ouais.
Il y a un énorme wiki, si tu veux, chacun met ce qu'il a envie de mettre dans le wiki, crée une nouvelle anomalie avec son imagination et avec ses envies, crée tous les médias, les choses qui peuvent donner une idée de ce que c'est, et on crée carrément ce qu'on appelle un ARG. C'est-à-dire que c'est vraiment une création audiovisuelle, en fait. Ça dépasse le jeu vidéo.
Ah ouais, ouais, c'est un monde, quoi.
Le jeu vidéo n'est qu'une illustration de ça, en fait.
Ah d'accord, j'avais cru que c'était seulement que ça. Ouais, non, c'est vachement complet, en fait.
Il y a un site de la Fondation où tu verras des tonnes et des tonnes de rapports qui ont été écrits par des tonnes de gens partout dans le monde. N'importe qui peut soumettre un rapport et agrandir encore plus l'univers de la Fondation.
Ah ouais, d'accord. C'est... Ah ouais.
Donc c'est pas uniquement jeu vidéo.
C'est pas uniquement, d'accord.
C'est même... pas jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est une déclinaison de ça. Puisque ça existe, on en a fait un jeu parce que l'univers est super, quoi.
C'est comme l'univers de Marble Hornets, en fait.
Ouais,
d'abord,
j'ai toujours
pas
vu.
D'abord, il y a eu une
web-série. Ouais.
Ensuite, il y a eu des films qui sont très mauvais. Ah. Et t'as eu les jeux vidéo Slenderman qui ont popularisé le truc. Mais le jeu vidéo Slenderman n'est pas la base de cet univers. C'est une création internet à la base.
Ah, ouais. D'accord, ouais.
C'est un peu tout ça, c'est un peu ce qu'on appelle, c'est la base de ce qu'on a appelé les ARG.
Ouais, ça me rappelle un peu, je sais pas si ça a à voir quoi que ce soit, mais ça me rappelle un peu ces histoires de creepypasta.
C'est une creepypasta.
C'est une creepypasta.
Voilà. Le tout premier, je l'ai pas spécifié pour laisser un peu le flou sur le concept, mais ça a été fait sur 4chan par un gars
qui a
fait croire que c'était une vraie histoire, donc une creepypasta.
Ouais.
Et ensuite, à côté de ça, des gens se sont dit putain, c'est génial ce truc. Moi aussi, je veux participer. Et du coup, ils ont fait un site.
Ça a dérivé.
D'accord.
Comme les backrooms.
D'accord.
Les backrooms, ça part d'une image. Et tout le monde a créé un univers autour de cette image, en fait. Quelqu'un a posté une image sans aucune référence, sans aucune légende, sans rien. D'un
appartement, c'est ça.
Ouais,
c'est une sorte d'appartement, c'est vert un peu.
C'est des bureaux vides, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça doit venir d'une annonce immobilière pour acheter des bureaux. Mais ils ont récupéré une image, ils ne l'ont pas sourcée. On voit simplement des bureaux vides, en fait. Et ils ont créé tout un univers autour de ça. Et les internautes du monde entier ajoutent des choses.
Wow. Ouais.
Ça peut devenir des jeux vidéo, certes, mais les jeux vidéo ne sont qu'une illustration de ce que c'est. Les backrooms comme Marvel Hornets ou la Fondation SCP, ça tourne autour de ça.
D'accord.
Et Control, le jeu de Remedy, qui sont les créateurs d'Alan Wake d'ailleurs, qui sort le prochain d'ailleurs dans quelques jours, se sont inspirés de ça pour créer leur jeu, où ils ont créé la fondation, le Bureau fédéral de contrôle,
ouais, c'est ça,
qui est en fait une fondation SCP bis, en fait, qui a pour mission de gérer les anomalies de façon à ce que l'humanité n'a pas conscience que ça existe.
C'est totalement les Men in Black, en vrai.
Exactement.
C'est totalement les Men
oui,
in Black.
Bah, le rapprochement avec les Men in Black est complètement là, en fait.
Ah ouais.
Ok, ouais.
La fondation SCP, c'est les Men in Black. L'objectif, c'est que, pour les Men in Black, c'est que certes, les extraterrestres sont venus sur Terre, mais l'humanité ne doit jamais le savoir. Et ben là, c'est pareil avec le paranormal.
Et c'est génial. D'accord. Si tu t'ennuies, tu vas sur le site de la fondation, tu mets rapport aléatoire et tu t'amuses.
Et tu passes, y a de quoi lire. Passer des heures.
D'accord. Ok, donc j'étais en fait complètement à côté de la plaque.
Ah ouais, ça
non, mais
Et peut-être que j'ai mal expliqué le concept dès le début
non,
aussi.
Non, c'est bien comme tu l'as expliqué. Maintenant, j'ai envie de changer un peu d'air. J'ai envie de passer à autre chose. On va déjà recommencer par ça.
Tu joues vachement bien de la guitare.
Ouais, c'est...
Ah, incroyable.
c'est mon talent.
Impeccable.
Je vais vous proposer un petit jeu maintenant.
Avec plaisir.
On va faire le jeu de la trad. On l'a fait le mois dernier. Si tu as vu les vidéos, tu dois savoir ce que c'est, Arnaud.
Je crois que je n'ai pas vu celui-là.
Alors, le jeu de la trad, c'est très simple. Je vais vous faire deviner 5 films. Ce sont tous des films d'horreur.
Ok.
Sauf que je vais vous faire écouter leurs noms dans des langues que vous ne connaissez pas.
Ah oui, d'accord, ok.
L'objectif, c'est, avec des indices, de deviner ce que ça peut être.
Ok, avec plaisir.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Va y avoir Miami Connection ?
Pas cette fois. Mais j'ai prévu du nanar.
Oh !
J'ai prévu un très gros nanar dans le lot.
Et c'est connu ou ?
Tous les films sont connus.
Ok, ok.
Tous les films sont connus, sont soit des classiques, soit des films récents.
Ok.
C'est parti. Le premier est en chinois. Je vous le fais réécouter.
Je parle pas chinois.
Alors là, vous avez dit, mais c'est quoi cet enfer ?
C'était il y a longtemps, mes cours de chinois.
Je vais vous donner quelques indices. C'est une saga qui a connu des remakes. Remakes qui sont mieux notés que l'original. Ce qui est quand même un peu étrange.
Bah ouais.
Ça se passe dans une montagne.
La colline à des yeux ?
Oui,
oh,
c'est la colline à des yeux en chinois.
Alexandre Aja ?
Et surtout Wes Craven,
bah moi,
pour les originaux.
Moi, j'ai vu les remakes surtout. Enfin, j'ai plus apprécié le remake que l'original.
Ah bah oui. C'est juste...
Genre une question.
Oui.
Je connais la réputation du 2 original qui est absolument horrible, mais que vaut le 2 remake ?
Il est bien.
Sympa.
Il est bien le 2 remake ?
Il est bien.
D'accord.
Ça se complète bien. Je veux dire, c'est comme Halloween 2 de Rob Zombie, ça se complète bien.
D'accord.
Moi, j'ai bien aimé en tout cas.
Ok.
Le premier d'Aja est formidable.
Ouais,
passons au suivant. C'est en hongrois, cette fois-ci.
Oh.
Alors,
on dirait qu'elle dit Hideo Kojima.
Non, mais on est même assez loin.
Death Stranding.
C'est un gros nanar. Nous sommes sur un film des années 90.
Un gros nanar.
90
de... Un film américain des années 90.
J'allais dire La taille tomateuse, mais non, du coup, 90.
Non. Réalisé par un maître de la science-fiction qui s'est... perdu, il y a déjà depuis longtemps. c'est un film apocalyptique. Je pense qu'on peut le résumer comme ça.
Bah, je sais pas de...
Mission to Mars ?
Non.
Mission to Mars, en plus, j'ai dit. Magnifique accent.
Mission to Mars, qui, je l'ai appris, est inspiré d'une attraction Disney. Comme Pirates des Caraïbes. Bref, non, ce n'est pas ça. C'est un film des années 90, réalisé par un maître de la science-fiction qui s'est complètement perdu par la suite et qui a fait, d'ailleurs, en se perdant, des films qui n'ont rien à voir avec la SF.
Parce que, attends, j'en cherche un maître
c'est
de la science-fiction.
C'est complètement apocalyptique.
C'est le genre du film ou c'est le tournage ?
Tout.
Okay.
Tout. Le film parle d'apocalypse, mais c'est aussi apocalyptique.
Le film parle d'apocalypse,
oui.
Mais c'est apocalyptique.
C'est un acteur qui était en fin de carrière à ce moment-là.
Oh, okay.
Un acteur principal, était très connu. C'est un de ses derniers films.
Mais c'est un nanar ou c'est vraiment un truc...
C'est sorti au cinéma chez nous, mais c'est un gros nanar. Hein.
Okay.
Il est de quelle année, le film, si jamais ?
Fin des années 90.
Est-ce que c'est pas Independence Day ?
Non. L'Independence Day n'est pas un gros nanar. Independence Day 2 l'est.
Ouais. Non.
Mais là, on est sur bien pire.
Ok, ok.
Il est trop bien, Independence Day 2.
Ah ouais, ouais, là, on est sur bien pire.
Je savais même pas qu'il y avait un 2.
Ouais, mais laisse tomber, c'est pas grave.
Ok,
ça. On est sur bien pire.
Bien pire.
Oui. Alors.
Mortal Kombat.
Une idée.
Ah non, rien à voir, c'est.
Non, mais. Punaise, un maître de la SF. Qui fait.
C'est un film d'horreur, d'accord.
Non, SF.
Non, c'est pas un film de SF.
Ah.
C'est un film sur l'apocalypse. Le mec a fait des films de SF, a fait des grands films de SF,
ouais,
mais c'est complètement perdu en route. Aujourd'hui, il ne fait plus que des films mauvais, et ça en fait largement partie.
Un maître de la SF qui fait des films mauvais.
Ça peut pas être Ridley Scott.
Non, ce n'est pas Ridley Scott.
Parce que c'est pas vraiment un maître de la SF. C'est des films mauvais aujourd'hui.
Oui, l'acteur principal, ça va vous aider.
C'est pas Peter Iams,
le réalisateur est Peter Iams, évidemment. L'acteur était un grand acteur de films d'action qui était en fin de carrière dans les années 90 et qui est revenu récemment.
Il a fait quoi, Peter Iams?
Peter Iams, il a fait Outland, il a fait 2010, l'année du premier contact, qui est la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ok.
Il a fait Time Cop aussi avec Jean-Claude Van Damme.
Ah d'accord, c'était lui.
Donc tu vois, ouais, okay, on passe de monument de la science-fiction à Time Cop.
Je l'ai sur le bout de la langue, je sais plus, bordel.
Ce film, c'est la confrontation de deux acteurs extrêmement connus, un acteur américain très bourrin et un acteur britannique shakespearien. Enfin, non, pas britannique, mais shakespearien quand même.
Oh, D'Artagnan.
Non, pas D'Artagnan.
Mais c'est lui, ça.
Mais c'est le même réalisateur, oui.
C'est pas des années 2000, D'Artagnan,
ça si, un peu plus, c'est 2001, 2002, je sais plus. Mais on parle d'un film qui est sorti en 99, pile.
C'est
important que ça soit sorti en 99, parce que c'est le contexte qui est important.
Ah, parce que c'était sur le bug de l'an 2000.
Oui, mais un peu, pas totalement, mais
okay,
oui.
Okay.
C'est un film ésotérique.
Putain, alors là...
Putain.
Non.
C'est qui l'acteur principal?
Je peux pas le dire, sinon ça va trouver, vous allez trouver le film directement. C'est un film qui est très proche de deux films qui sont très connus et qui sont... on va dire, bien meilleurs, qui sont L'Associé du Diable et Angel Heart.
La fin des temps ?
Voilà !
Okay.
C'est Peter Iams, ça ?
C'est Peter Iams ?
Avec Arnold Schwarzenegger et Gabriel Byrne.
Eh oui, c'est vrai.
Je l'ai vu, il est formidable comme nanar. Oui. Mais c'est Peter Iams qui a fait
j'ai
ça.
J'ai aimé, là. Chercher un nanar, moi, à la fin des temps, c'était sympa.
C'est un nanar.
Ouais, c'est vrai, ok.
Ah, non, mais
je l'ai vu dans les années 2000, alors j'ai très peu de souvenirs.
J'ai pas dit navet. J'ai dit nana,
okay,
c'est-à-dire
okay,
que c'est mauvais, mais c'est drôle à regarder.
Okay.
Parce que, je veux dire, tout le côté Schwarzenegger qui doit jouer un alcoolique, c'est raté.
Ah, il est alcoolique, putain, je m'en souviens.
Oui, il joue un alcoolique, mais c'est raté.
Je me rappelle qu'il doit sauver une meuf parce qu'elle est enceinte, non, c'est pas un truc
il est alcoolique, il joue Max Payne, mais mal.
Ouais.
Et même Mark Wahlberg jouait mieux Max Payne que lui.
Ouais, okay. C'est dire.
Il est constamment mal rasé.
Ouais,
oui, enfin,
il bouffe des sandwichs dégueulasses trouvés par terre.
Vous l'avez vu récemment ou ça se passe comment?
Je l'ai découvert il y a 2 ans par mon pote Simon qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Donc, mais c'est lui qui m'avait fait découvrir ce film. Mais par contre, je dois quand même saluer la prestation de Gabriel Byrne qui s'en sort.
Oui,
je trouve super bien.
Pour moi, c'est un des meilleurs Satan du cinéma.
J'ai un souvenir de ce film qui revient souvent en tête. C'est il y a un gamin avec son skateboard qui lui casse les couilles.
Oui.
Et il traverse, il est petit et il se retourne. Tu te fais écraser. Ouais. Je me rappelle de ça. C'est la seule chose que je me souviens du film. Quoi.
C'est ça.
Ah, mais je trouve qu'il s'en sort super bien, Gabriel
Byrne.
Par contre, le gros problème, c'est le reste du film et Schwarzenegger.
Maintenant, nous partons pour la Finlande.
Oh,
le prochain titre à découvrir est en finnois.
Le film n'est pas finnois.
Le film n'est pas finnois.
On dirait Tower et Dieu.
Alors, c'est un film d'horreur. C'est un classique du cinéma d'horreur. En noir et blanc.
Oh,
les yeux sans visage.
Non.
Nosferatu ?
Non.
Ok.
C'est un film américain.
La nuit des morts vivants ?
Non.
Il est pas en noir et blanc, si ?
Si.
Ah, ok.
C'est un film américain, c'est un classique du cinéma d'horreur. C'est un film sorti dans les années... fin 60, début 70, pour vous donner un indice.
Ah bah... Est-ce que c'est un Hitchcock ?
Non.
Ok.
Putain, j'ai cité La nuit des morts vivants, fin 60, début 70, en noir et blanc.
Je vous fais réécouter le finnois.
Ça n'a pas aidé, je crois. Tu peux l'inventer, si tu veux. Parle finnois.
Il y a connu plusieurs remakes, dont un extrêmement mauvais, et une adaptation Netflix, également.
Récente ?
Récente.
Donc un film d'horreur à Netflix qui est... Ah ouais ?
On parle d'un classique du cinéma des années 60-70 qui a été remaké au cinéma de façon extrêmement mauvaise et qui a connu une série Netflix extrêmement acclamée pour le coup.
Ah ouais ?
Une série Netflix acclamée ?
Acclamée ?
Oui.
Un classique de l'horreur en noir.
Amityville ? Ah ben non. Amityville, c'est pas. Non.
Mais t'es pas loin.
Ouais, ouais. J'imagine que c'est le manoir, je sais pas quoi, là.
Non, le manoir hanté, simplement.
Non.
Non, la maison. Oh, comment ça s'appelle ?
Le village des damnés ?
Non.
Non.
Ça, c'est Carpenter. Et,
c'est Carpenter le remake.
Haunting
mais...
of Hill House ? C'est pas ça,
oui,
la série ?
C'est ça.
Et du coup, c'est Antiz.
Je cherche le nom du film original.
C'est pas Antiz, le
film ? Antiz, c'est le nom du remake de 99.
Ah merde, comment il s'appelle, ce film original ?
En français, en anglais, le film s'appelle The Haunting, comme le film de 99. Et la série s'appelle The Haunting of Hill House. Et le titre français du premier film, c'est...
L'Emprise ?
Non.
Oh putain. En tout cas, je le visualise, malheureusement. J'ai pas le titre, là.
Je l'ai pas.
C'est un film de Robert Wise.
Non, mais je vois le film, mais j'ai pas le titre. Il veut pas le
réalisateur de Star Trek, le film. Et de La Mélodie du Bonheur. Et de West Side Story.
Ah, comment il s'appelle ?
Également réalisateur de... The Haunting en VO...
L'Emprise ?
La Maison du Diable.
Ah, La Maison du Diable.
Je l'avais pas cité ? Non, j'avais dit La Maison de l'Horreur.
Oui. Ouais. Et pourquoi je te dis Amityville, t'es pas loin ? Parce que le sous-titre d'Amityville, c'est La Maison du Diable.
Ouais, j'en souviens. Mais j'ai visualisé le film, ça le plus triste. C'est que mais je me rappelais pas qu'il avait un autre nom.
Maintenant, on part sur de l'ukrainien. Pensons à nos amis ukrainiens.
Le plus rigolo, c'est si tu mets vraiment un film ukrainien qui est connu.
Une idée ?
Vampire, vous avez dit vampire.
Non, mais c'est bien
référence. Bien tenté, ouais, grave.
Alors, c'est une adaptation littéraire, cette fois-ci. C'est un...
Dracula ?
Non.
Carré au bas du diable ?
Plus récent.
Ah, plus récent.
Ah, récent ?
Plus récent, mais pas loin.
Shining ?
Non.
Donc on est sur du Stephen King.
On est sur du Stephen King.
Putain, là, c'est derrière. Il y en a... Ça ?
Ça. Vous avez entendu ça, il est revenu.
Ouais, c'est ce que... Il est revenu.
En ukrainien.
Remets-le.
Что? Він повернувся.
Ча.
Ouais, c'est ça, ча.
Il nous en reste un. Nous allons partir en Corée pour le dernier.
Allez.
왼쪽 마지막 집. 왼쪽 마지막 집.
Nous sommes sur un classique du cinéma d'horreur encore une fois.
Américain ?
Hein ?
Toujours américain ?
Toujours américain. Qui date, je dirais, des années 70-80, à peu près. Je ne l'ai pas vu, celui-là, donc je ne me mouille pas.
Fantôme contre fantôme ?
Non. Fantôme contre fantôme, c'est un film de Peter Jackson, sorti en 95.
Ah, c'est 90 ?
95 ?
Oui.
95.
Ah. Parce que Créature céleste, c'est 97.
Ah, c'est ça, toi.
Ah, c'est pas sorti avant ?
Non, attends.
Non, il me semblait que c'était sorti avant.
Non, c'est sorti juste avant, c'est 93, l'autre c'est 95. Et il y a une histoire avec James Bond, mais c'est encore autre chose.
Et à Braindead, donc... ah non, Braindead, c'est les années 80.
Braindead, voilà.
Donc,
on est en 91.
Ne pas du tout sur Peter Jackson.
Donc c'est pas Peter Jackson.
C'est un grand Manitou du cinéma d'horreur.
John Carpenter ?
Non.
Wes Craven ?
Non.
Wes Craven ?
Wes Craven.
C'est Freddy et les Griffes de la Nuit ?
Non, ce n'est pas Freddy.
Ah ben non, les années 80, j'avais dit le crime.
70-80.
Oui.
Mais c'est pas les
Le Crocodile de la Mort ?
Non.
C'est
un titre.
C'est pas Wes Craven, qu'est-ce que je raconte ? C'est Tobey Hooper. Je suis con. Et c'est pas très bien d'ailleurs.
Non, c'est pas son meilleur. c'est comme ces films pour la canon, c'est spécial.
Bah c'est. Non, c'est pas la canon. Si, c'est la canon. Si, c'est déjà la canon.
Donc,
je crois.
Nous sommes sur un film en coréen.
De Wes Craven.
Sorti dans les années 70-80. Pour vous donner un indice, le titre est assez long.
Ok. Est-ce que c'est La Dernière Maison sur la Gauche ?
Si, ça doit être ça.
Ouais.
Bien,
merci,
joli.
Merci.
Qui a eu droit à un remake qui est meilleur que le film original.
C'est ce que j'allais dire, parce que le remake, il est incroyable.
Pauvre Wes Craven.
Et j'ai vu l'original, c'est chiant.
Ouais.
Pauvre
ça
West
devait
Craven.
Être bien dans les années 70. Hein.
Bah, le problème, c'est que en fait, ça te parle, c'est en fait un Rape and Revenge, sauf que t'alternes des scènes vachement horribles de meurtre ou de viol ou de tout ce que tu veux.
C'est
dégueulasse. Et t'as des scènes comiques qui n'ont rien à foutre là. Où t'as des flics incompétents, mais vraiment, c'est tourné en comique, quoi. Et du coup, c'est vraiment demi-teinte, quoi, je veux dire.
Oui, c'est un peu spécial comme film.
Et t'as une scène de tronçonneuse, et c'était avant Massacre à la tronçonneuse.
Et avant Scarface.
Oh, bah, ça dépend lequel.
Ça dépend lequel.
Le tout premier ?
Bah, celui de 32.
Ah non, pardon.
Celui de
pas le tout premier, du coup. Celui des Palma.
Bref, j'espère que ce petit jeu vous aura plu.
Ouais, c'est très sympa.
Le mois prochain, on en trouvera d'autres. On a déjà de nouvelles idées dans l'équipe.
Je vais juste bosser mon ukrainien, mon coréen, mon chinois.
Et ton finnois.
Et mon finnois. Le finnois, c'est mon point faible.
Mais... T'inquiète, le japonais arrive bientôt.
Ah bah, japonais, j'ai pas trop de soucis avec.
Bref, sur ce, sans transition, nous allons passer à la dernière chronique de cette partie, la chronique cinéma de Raph, qui va nous parler d'un film qui n'est pas du tout un film d'Halloween, mais que nous aimons tellement tous.
Le film était bien. La séance vous a plu? C'est l'heure de la chronique ciné.
Puisque Raph, tu vas nous parler de
Demolition Man.
Ouh, beau gosse.
Oui, parce que je me suis dit, c'est peut-être pas de l'horreur, mais c'est de la SF, donc on n'est pas très loin, ça va.
Et puis c'est bientôt en plus, 2032.
Oui, ouais. Tout à fait.
Et d'ailleurs, il a été congelé en quelle année?
En 97, je crois, en 96.
Non, en 96.
Bah, j'ai dit 96.
Comment ?
J'ai dit 97, 96.
Ah oui, tu sais.
J'ai dit les deux.
Bref.
Alors que le film était réalisé en ?
En 92, non ?
Presque 93.
Ah bah, putain.
Let's go. Quand on pense producteur, on a souvent tendance à imaginer le type véreux derrière son bureau qui n'y connaît absolument rien au cinéma, attendant qu'un film dans lequel il a investi lui rapporte plus que ce qu'il n'aurait imaginé. Mais il arrive à Hollywood qu'un producteur soit un mec intelligent, amoureux de cinéma, et qui va travailler avec un réalisateur talentueux, et qui en plus de ça, sait utiliser correctement le pognon qu'il allouera à un film.
Donc par Harvey Weinstein.
Exactement, par Harvey Weinstein. Amenant du coup généralement à de très grandes réussites, qui étaient pour moi un éventail entier à ma culture de films d'action des années 80 et 90. Et ce mec-là, c'est Joel Silver. Pour faire court, Joel Silver, c'est pas n'importe qui. C'est la quadrilogie L'Arme Fatale. C'est Die Hard 1 et 2, c'est Predator 1 et 2, c'est Commando, Assassin, Le Dernier Samaritain, Les Guerriers de la Nuit, 48 heures, c'est Les Rues de Feu. Donc
Ashton Jackson.
Ouais, Ashton Jackson. Et bien évidemment, la trilogie Matrix.
Toute notre enfance.
Ouais.
Et aussi quelques remakes de films d'horreur qu'on aurait préféré pas voir. Genre La Maison de l'Horreur.
Oui. Mais c'est avec une vieille VHS enregistrée que m'avait montré mon frère il y a de ça déjà une vingtaine d'années, ça me rajeunit pas tout ça, que naquit alors mon amour inconditionnel, incommensurable et que aujourd'hui toujours intact, pour Sylvester Stallone. Une pure merveille de science-fiction et d'action sortie en 93, ce film, c'est Demolition Man. Film culte par excellence et qui offre selon moi le meilleur rôle absolu à Stallone, avec les éternels Rocky et Rambo, bien sûr. Demolition Man est la seule et unique réalisation en long métrage de Marco Brambilla, un mec spécialisé dans la publicité qu'un certain David Fincher recommandera à Joel Silver, Brambilla n'étant alors âgé que de 32 ans à l'époque. Après le film, il poursuivra une carrière artistique plus diverse, avec de la photo, de la vidéo, et ne reviendra à la réalisation de fiction qu'en 2006, avec District, un film choral sur le sexe et l'art, regroupant plein de courts-métrages, et avec comme autre nom, par exemple, Gaspard Noé, ou même encore Larry Clark. Demolition Man commence alors en 1996, dans un Los Angeles rongé par une criminalité élevée et une police aux méthodes extrêmes. On y suit le sergent John Spartan, faisant une descente dans un immeuble occupé par des criminels, avec à leur tête le dangereux psychopathe Simon Phoenix, campé par Wesley Snipes, ayant par ailleurs pris en otage une trentaine de passagers d'un bus. Phoenix est arrêté, mais l'immeuble explose avec ses 30 civils à l'intérieur. Et Spartan est également condamné pour homicide involontaire. Les deux hommes se verront purger une peine de cryogénisation, période durant laquelle leur cerveau et leur comportement seront remaniés en tant que programme de réinsertion pour le jour où ils sortiront. 36 ans plus tard, en 2032, Los Angeles, San Diego et Santa Barbara ont fusionné pour donner la méga métropole de San Angeles. Une ville extrêmement propre, dénuée de violence et de crimes, et où l'hygiène de vie est absolument irréprochable. Sont donc interdits le tabac, l'alcool, la viande, le sexe et même le langage grossier. Mais où par contre les relations sexuelles ne sont plus physiques mais mentales et que l'on fait ses besoins avec trois coquillages.
C'est pas servi les trois coquillages.
Et je peux vous dire que je me suis acheté des coquillages exprès juste pour en foutre trois dans mes chiottes à moi.
Excellent.
Le fanboy de première, c'est moi.
Putain.
Le bruit de l'alarme avec l'amende, ça aurait été génial. Là.
Le code de moralité du langage, ouais, magnifique.
Infraction au code de moralité du langage.
Ned Flanders.
Ned Flanders.
C'est la voix française de Ned Flanders.
Ah bon ?
Bordel !
Trop galerie.
C'est dans ce monde que Simon Phoenix va être libéré prématurément et réussir à s'évader tout en semant le chaos sur son passage. Son programme de réinsertion l'a transformé en maître des arts martiaux, de hacking, de maniement d'explosifs et autres armes, le rendant impossible à neutraliser par les forces de l'ordre établies. Plus habitué à des tags sur les murs, et rien de plus grave que ça, plutôt que tout ce déferlement de violence auquel ils font face. Simon Phoenix étant un criminel comme on n'en voit plus, il faut un flic comme on n'en voit plus. Et John Spartan est alors libéré. Et tel un homme de Néandertal, il doit faire face au nouveau monde dans lequel il doit évoluer et être considéré aux yeux de tous comme primitif. C'est donc deux hommes qui vont se foutre sur la gueule en répandant le chaos dans ce monde aseptisé. En y regardant de plus près, on peut constater que le film est relativement visionnaire et que bon nombre de choses dépeintes dans le film sont réellement arrivées de nos jours. L'utilisation de voitures électriques et autonomes, les visioconférences, les divertissements courte durée qui rappellent étrangement TikTok ou les shorts YouTube, l'omniprésence d'écrans connectés ainsi que sa dépendance, la guerre des franchises, la guerre des franchises des années 80 en l'occurrence, la carrière politique de Schwarzenegger,
c'est vrai.
Il n'a pas été président mais il a quand même eu une carrière, ou encore la réprimande de langage grossier, la mesure de propos ainsi que la distanciation sociale. En un sens, Demolition Man est une satire du politiquement correct et de la bienséance forcée au détriment du bon sens, et qu'à force de vouloir toujours plus interdire ou éviter de heurter la vie générale, à toujours vouloir réguler ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on mange, ce que l'on pense, on en vient à un contrôle total donnant naissance à un totalitarisme déguisé, entraînant des individus faibles, superficiels, naïfs, paranoïaques, dénués de spontanéité et de réflexion.
Spontanéité.
C'est dur à dire.
Oui.
C'est ton karaté encore.
La ville de San Angeles est en apparence une utopie. La ville est saine, il n'y a plus de violence et les habitants semblent heureux. Le personnage du docteur Cocteau est à la tête de ce nouveau système, un innovateur dont la technologie a permis le confort des habitants ainsi qu'à sa sécurité, puisqu'il est lui-même le créateur de la cryoprison, mais également à son contrôle étant donné que chacun dispose d'une puce de traçage incorporée dans la main. La population est donc dépendante de la technologie, ne se fiant uniquement qu'à elle quand il s'agit de prendre des décisions, de procréer ou même de faire du développement personnel, le tout au détriment, encore une fois, du bon sens. Les rapports humains ne sont plus physiques, la vulgarité est sanctionnée par un code de moralité du langage afin d'éviter des propos offensants. Tout cela pour que Cocteau puisse conserver son statut par la manipulation et le contrôle du corps et de l'esprit de la population, sans même que cela ne puisse être remis en question. Et donc San Angeles n'est au final qu'une anti-utopie, la population sous contrôle vit une vie de bohème à la surface, à l'inverse d'opposants au système, vivant dans les égouts et les profondeurs de la ville, dans des conditions insalubres, à crever de faim, ou du moins à manger tout ce qui leur passe par la main, comme par exemple du rat, tout en espérant une certaine liberté. Parmi eux, le meneur Edgar Friendly prône à l'inverse de Cocteau la liberté individuelle, l'anarchie et le refus de se plier aux règles, devenant alors pour Cocteau une cible à abattre. Simon Phoenix était donc programmé pour tuer Friendly afin que Cocteau ait un contrôle total. Mais Phoenix représente le chaos le plus absolu et réussira à s'émanciper de Cocteau en contournant les règles de contrôle imposées et sans connaître de barrières morales, à l'inverse d'Edgar Friendly. Au milieu de tout ce bordel, le personnage de Lenina Huxley, interprété par Sandra Bullock, représente la juste position entre les deux mondes. J'ai une troisième page, c'est inédit. Elle est elle-même flic de San Angeles.
C'est mérité.
C'est une jeune adulte passionnée par le XXe siècle, sa culture et surtout sa violence. Elle a une fascination pour le travail de John Spartan et sera à l'origine de sa libération, puis d'être son guide dans le nouveau monde. Elle qui a toujours connu ce monde avec ses règles, elle est désireuse de sensations plus fortes lorsqu'il s'agit de combattre ceux qui violent la loi, ceux qui changent un peu des tags. Entre la sécurité et le contrôle, et la liberté mais le chaos, Spartan et Huxley vont concilier les deux visions utopiques et faire comprendre aux habitants qu'il faut garder le meilleur des deux pour au final créer le meilleur des mondes. Demolition Man connaît un petit succès assez sympathique et deviendra monstrueusement culte avec le temps. Il arrive à une période où la carrière de Sylvester Stallone chutait drastiquement. Depuis à peu près 1988 et le troisième volet Rambo, il ne connaît que des échecs au box-office, dont un remake horrible que j'ai toujours pas vu, mais un jour j'y arriverai, de Oscar de Louis de Funès, ça s'appelle L'embrouillé dans le sac.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est avec Cliffhanger Ouais, toi, tu l'as vu? Oh mon dieu, j'ai vu Arrête où ma mère va tirer, je suis sûr c'est vachement mieux.
Oui. C'est rien, ça aussi oui. J'ai oublié. C'est long.
Et c'est avec Cliffhanger de Renny Harlin et Demolition Man, tous deux sortis en 93, que Stallone va pouvoir se renouveler en cinéma d'action et s'essayer pour une fois à la science-fiction. Il renouvellera 2 ans plus tard l'expérience SF avec Judge Dredd, sorti en 95, et qui sera un échec critique et public.
C'est dommage.
C'est de la merde.
Ouais, mais c'est dommage.
Ce sera le début...
C'est normal.
Oui. Ce sera le début de la longue traversée du désert pour l'acteur, avec cette très mauvaise adaptation du comics original, dans laquelle on dépeint un monde post-apocalyptique, totalitaire, rongé par une criminalité sans précédent et des forces de l'ordre particulièrement violentes et amorales. Ce qui, bizarrement, me rappelle un film. Vous l'aurez compris, je fais référence à la scène d'introduction de Demolition Man, où l'on voit un monde, déjà dans le futur, plongé dans le chaos avec un policier aux méthodes brutales. Pour moi, la scène d'intro de Demolition Man est un bien meilleur Judge Dredd que Judge Dredd. Et pour la petite anecdote, la réalisation de cette scène est confiée à un certain Fred Decker, tristement célèbre pour avoir réalisé le très mauvais, mais ô combien sympathique pour moi, Robocop 3.
Et le merveilleux Monster Squad.
Ouais. Sandra Bullock, quant à elle, sera choisie pour un autre immense film d'action des années 90, un petit film qui s'appelle Speed.
Un truc qui roule.
Ouais. Dans lequel Keanu Reeves doit sauver la vie de plusieurs passagers d'un bus menacé d'explosion.
La classe.
La boucle est bouclée.
C'est vrai.
Demolition Man a changé ma vie, mon rapport au cinéma et ma vision du monde. C'est un peu les prémices de ce que je connaîtrai plus tard en découvrant Paul Verhoeven ou John Carpenter. Il est parmi les films d'action les plus impressionnants que j'ai pu voir. C'est drôle, c'est fun, ça se prend pas au sérieux, et pourtant ça aborde des thématiques sérieuses qui me sont personnelles. Stallone y est impressionnant, jouant le mec sérieux dans un monde à la limite du guignolesque, et Wesley Snipes est génial de folie, pouvant parfois évoquer un certain Joker. Je note cependant juste un petit point négatif pour la Warner Bros, qui n'est absolument pas foutu de faire une édition décente de ce film. Le DVD ne comporte rien, et le Blu-ray ne dispose uniquement que du commentaire audio avec des sous-titres chinois.
Ah bon ?
Il n'y a pas de sous-titres ni français ni anglais et il n'y a aucun making-of.
C'est fou.
Contrairement à un certain Cobra qui était très mauvais, mais au moins il a un making-of lui.
C'est fou. Parce que là il y aurait des trucs à dire dessus en plus.
Ah, mais il y a un truc.
C'est monstrueusement... incroyable ce tournage. Hein.
Mais il y a eu monstrueusement à dire quoi. Et moi j'attends juste un putain de making-of de ce film.
Tu m'étonnes.
Les commentaires audio. C'est tout un sous-titre chinois, j'étais vraiment ravi de payer 15 balles pour le steelbook qui est franchement d'une médiocrité absolue.
Tu payes l'âge de quand c'est tout.
Ouais, mais bon. Alors que des éditions de films de Nolan et de Kubrick, bah il y en a genre un milliard, hein. Un milliard différentes. Donc voilà, c'était ma chronique sur Demolition Man, j'espère que ça vous a plu.
Merci.
Que vous avez redécouvert le film.
Ouais,
je vous souhaite une bonne continuation, tout le monde, et soyez heureux.
C'est
évidemment.
Merci,
évidemment.
Ah, le retour aux années 90, les gars.
J'ai une colle pour toi.
Oh là.
Est-ce que quand Demolition Man est en tournage, Cliffhanger est sorti?
Excellente question.
Ils sont pas sortis.
Excellente
la même
question.
Année
je...
Justement, si.
C'est sorti la même année, mais c'est une excellente question. J'ai pas vérifié l'info. Mais je pense que si tu me poses la question, c'est qu'il y a moyen qu'il ait tourné Demolition Man. Enfin, que Demolition Man. Et il était tourné avant Cliffhanger. Ah mais oui, c'était le bordel sur Cliffhanger, donc oui.
Oui.
Donc c'est ouais.
C'est ça. Parce que au moment où Cliffhanger sort au cinéma, Stallone sait que ça va le faire.
Ouais.
Mais quand il tourne Demolition Man, il est au fond du gouffre à ce moment-là.
Oui, ouais. C'est vrai.
Et il ne sait pas que il va pouvoir, ne serait-ce qu'un peu, rebondir.
Ouais.
Mais Cliffhanger a bouffé Demolition Man complètement.
Ah complètement, oui.
Et ça... pourtant, Dieu sait qu'il est largement moins bien.
Alors, largement moins bien, il est quand même bien, Cliffhanger.
Il est bien,
il,
hein,
est,
mais...
il est très bien, c'est même le meilleur film de Renny Harlin, en vrai.
Oui, c'est le meilleur
c'est
film de Renny Harlin, mais
tout,
sachant
mais...
qui est Renny Harlin, c'est pas un exploit.
C'est, pas...
c'est un excellent film d'action, c'est un très ouais, bon film, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve
Demolition
clairement
Man,
que l'effort
mieux.
Visuel de Demolition Man est largement meilleur.
Ah oui, oui, oui.
Après, Cliffhanger, il avait une force, c'est que quand je le regardais quand j'étais gamin, j'avais froid, quoi.
Oui.
Oh, tu cailles avec le
Tu ressens le froid, ça, c'est sûr.
Visuellement, et tout, l'ambiance est vraiment incroyable quoi. J'ai vu d'autres films sur les montagnes avec le froid et tout, et c'était pas pareil. Hein. Là, c'est vraiment particulier.
Mais ouais, mais c'est sûr, c'est un excellent film d'action, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Demolition Man.
Et c'est la seule chose qu'il faut retenir de Stallone dans les années 90.
Ah, c'est pas vrai parce
non,
que.
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Parce que personnellement, pour le dire, je trouve que Stallone a fait parmi ses meilleurs films dans les années 90, à l'exception de Judge Dredd. Je trouve que tous les films qu'il a fait dans les années 90, bon, c'est encore pas non plus l'embrouiller dans le sac, mais entre...
Haute sécurité, c'était pas les années 90 ?
Non, c'est 89, malheureusement. Ah, ouais. Mais c'est un excellent film, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Tango mais entre Demolition Man, entre Daylight, entre Copland, entre Assassin de Richard Donner, je trouve qu'il s'en est merveilleusement sorti.
Daylight. Alors que...
Ah, Daylight, oui, c'est
ouais,
vrai.
C'est Rob Cohen. Oui,
Daylight. Oui. C'est la suite de Cliffhanger.
J'ai été surpris de me dire que c'est un film de Rob Cohen et c'est franchement pas si mal.
Il est bien.
Mais il faut vraiment surtout retenir Copland et je trouve Assassin de Richard Donner. Parce que ça aussi, c'est un grand film d'enfance pour moi. Et c'est un merveilleux film, un merveilleux thriller où, putain, il y a si peu de coups de feu tirés comme ça. C'est un pur thriller, c'est pas du tout un film d'action. Et qui a bidé monstrueusement. Et le scénar des Wachowski n'était pas respecté du tout.
Je rajouterais quand même une chose, c'est qu'au départ, Demolition Man devait être joué par deux autres acteurs. Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme.
Exactement. Et ils s'étaient intervertis les rôles. Il n'y avait aucun des deux qui voulait le rôle de Simon Phoenix.
Ah ouais ?
Oui. Ouais. D'ailleurs, Wesley Snipes ne le voulait pas non plus.
Exactement.
Il a fallu qu'ils aillent sur le tournage de Soleil Levant pour le convaincre.
Ah ouais ? Alors que putain, c'est un choix de ouf quoi.
Oui, mais le truc, c'est que Soleil Levant lui donne une image beaucoup plus sérieuse.
Ouais.
C'est un flic. C'est un flic qui est du bon côté. En plus. Il est l'élève de Sean Connery dans Soleil Levant, c'est un truc de fou. Et juste après, il joue ça.
Ouais, je pense que ça va être particulier quand t'es dedans.
Et après, il a complètement pété un câble et il a fait Blade. Et il a failli tuer le réalisateur de Blade 3.
J'ai une petite question pour toi. As-tu vu Passager 57 ?
Oui.
Comment tu trouves ?
Sympa.
Ah, ok, ça me rassure.
C'est comme.
Il n'y avait pas. Comment il s'appelait ?
C'est comme Meurtre à la Maison Blanche, c'est sympa.
D'accord.
Avec ces snipes là, Money Train, ah non, comment il s'appelait?
Oula,
je sais.
Putain, il y avait un film.
Parce que je suis pas non plus très connaisseur sur la carrière de Wesley Snipes.
Il avait fait un film comme ça avec à base de.
De toute façon, appelé Blade 3, il y a plus rien.
Bah en fait, je crois que le seul et unique film de Wesley Snipes que j'ai vu, c'est Demolition Man.
T'as pas vu Blade?
Non, j'ai pas vu Blade, désolé. J'ai pas vu Les Blancs ne savent pas sauter. J'ai pas vu beaucoup de trucs de. J'ai même pas vu Drop Zone.
Ah, Drop Zone, c'était sympa, ça.
Je sais pas.
Bah, ah, si, c'était très sympa.
Je vous conseille Soleil Levant, parce Soleil que je crois Levant. Que c'est le film le plus raciste que j'ai jamais vu de ma vie sur les Japonais.
Ah, c'est pas l'année du dragon?
Non, l'année du dragon, c'est les Chinois.
Ah.
Je vais pas faire la blague.
Soleil Levant, le film, il n'y a pas une réplique qui n'est pas négative sur le Japon.
C'est vrai?
Ouais. Oui.
Ça se passe au Japon?
Non, ça se passe aux États-Unis dans le quartier japonais.
Ah, donc c'est Clint Eastwood qui a réalisé ça?
Non. Non, c'est le réalisateur de L'étoffe des héros et de L'invasion des profanateurs.
Kaufman.
Oui, c'est ça. Bref, c'est sur ces bons mots que nous terminons la première partie de l'émission. On se retrouve bientôt, très vite, pour la deuxième partie. En attendant,
soyez heureux.
J'aime bien.
La Geek Nation fait une pause. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine !